Voilà, nous y sommes. Comment bien gérer notre vie selon Dieu? Vous n'avez pas lu le bulletin? C'est sur le bulletin. Comment gérer ma vie selon Dieu? Donc aujourd'hui, nous commençons cette série de prédications qui a pour titre donc comment bien gérer notre vie selon Dieu. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question, comment bien gérer son temps? Comment bien gérer son temps? Voilà une bonne question. Dans un monde qui va super vite, on relève aujourd'hui que le monde exalte la vitesse et l'efficacité. Alors, Internet nous pousse dans ce sens, n'est-ce pas? On est dans le temps du numérique. Le téléphone doit aller très vite. On doit pouvoir avoir des infos avant la seconde suivante. Sinon, ça ne va pas aller, hein. Notre ordinateur ne doit pas ramer. Vous observerez certainement que quand quelques personnes sont devant un ordinateur, leur patience est vraiment mise à rude épreuve. Car tout doit aller très vite. Alors certainement que pour certains, ça ne parle pas de la même manière que pour d'autres. Puisqu'il y en a qui sont plus dans ce monde du numérique, d'autres peut-être moins. Mais ça n'enlève pas dans la vitesse dans laquelle nous sommes. Et malheureusement, on se rend compte que les églises aujourd'hui sont fortement influencées par la vitesse et l'efficacité. Et pas juste les responsables d'une église, mais les gens eux-mêmes qui sont demandeurs de cette vitesse et efficacité. De là, les églises recherchent des activités à consommer. Rechercher des objectifs chiffrés, une fois vite acquises, du changement non-stop. Faut que ça aille vite, hein, Manu. Hein. Faut que ma vie change vite. Sinon, je change d'église. Mais les résultats sont souvent des agendas surchargés quand on répond à une telle demande. Une conception de la foi et de la vie chrétienne superficielle. Quelqu'un a sorti cette phrase et je trouvais bien ce mot. Nous devons faire attention à la McDonaldisation de la foi. On n'est pas dans un McDo, hein? On n'est pas au McDo ici, ni dans un autre restaurant. On parle de vie que Dieu veut transformer et cela prend du temps. Du temps pour écouter Dieu, du temps pour recevoir l'enseignement, etc. Donc faisons attention à la McDonaldisation de la foi. Alors comment bien gérer son temps dans ce monde qui va très vite? Dans un monde où la recherche est souvent de consommer? Pour répondre à cette question, je dirais que bien gérer son temps, c'est faire en fait ce que Dieu veut. S'il fallait résumer les choses ainsi. Tu veux bien gérer ton temps? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est surtout cette question qu'il faut que tu te poses. Comment Dieu veut que j'emploie mon temps, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ce temps que j'ai? L'idée ici, c'est de faire plaisir à Dieu. Et quand nous lisons la Bible, c'est génial parce que nous avons un super résumé de ce qu'est la volonté de Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Comment Jésus résume la volonté de Dieu pour nous? Comment? Comment? Vous êtes trop timide. J'ai entendu aimer Dieu de tout. Les deux commandements. Je vous embête. Hein. Mais c'est bien ça, c'est exactement ça. On va le voir ici tout de suite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et celui qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh. Alors quand on entend ce texte, c'est assez surprenant. Parce que on se dirait aimer Dieu, ok, mais ça dit aussi d'aimer notre prochain. Et Jésus dit qu'ils sont semblables. Alors quand j'entends des gens dire « Oui, j'ai passé un temps fort dans la présence de Dieu, c'était génial tout ça. » Et puis de l'autre côté, je vois qu'ils se mettent tout le temps en colère sur les autres. Je dis « Il y a un petit problème. » Parce que normalement, ton intimité avec Dieu, ton amour pour Dieu, se voit Si tu veux le voir vraiment, il se voit dans ta relation avec les autres. Ah mince ! On a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire là. Jésus dit, celui qui est semblable, qui est pratiquement le même, presque, on pourrait les mettre pratiquement ensemble, on ne peut pas les détacher. C'est aimer Dieu et aimer ton prochain, comme toi-même. Alors avec ce beau résumé de la volonté de Dieu et qui est à un niveau difficile à atteindre, nous pouvons répondre à la question ainsi, pour bien gérer son temps, nous devons prendre du temps pour Dieu, pour soi, pour les autres. Voilà, juste trois points ce matin. Pour bien gérer son temps, prendre du temps pour Dieu, pour soi et pour les autres. Donc on va y aller, c'est parti. Je vous invite à lire avec moi dans la Bible, en Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21, si tu peux l'afficher, Philippe. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21. Merci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Rien de grave. Car les jours sont mauvais. On est où là ? Voilà. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je ne vais pas commenter tout ce texte, mais je veux qu'on s'arrête sur racheter le temps. On sait très bien que dans le domaine des arts, des affaires, des choses personnelles ou des choses spirituelles, personne ne peut faire d'un rêve une réalité ou tirer tout l'avantage possible des occasions qui s'offrent à lui s'il ne rachète pas le temps. La brièveté de la vie est une bonne raison de faire le meilleur usage des opportunités que Dieu nous donne. On n'a pas le temps de gaspiller notre temps. Voilà. Mais Paul dit pourquoi nous devons bien utiliser notre temps. Pourquoi ? Parce que les jours sont mauvais. Alors, pas besoin de vous convaincre de cette pensée. Les jours sont très, très, très mauvais. Je ne vais pas en dire plus, mais du temps de Paul, si on regarde un peu, du temps de Paul, cela signifie que les persécutions romaines ne cessent d'approcher. Et voici comment faisait Paul. Pour lui, c'était une folie de perdre des occasions de partager sa foi à ceux qui n'ont pas encore de relation avec Dieu. Tout mon planning, à moi, Paul, c'est le salut des autres. Il faut qu'il y ait des milliers de personnes qui se tournent vers Jésus-Christ. C'était ça, son planning. Paul sait que ces occasions seront de plus en plus ôtées par l'avance du péché dans le monde. Plus il y a persécution, plus ça rend difficile le témoignage, n'est-ce pas ? Bon, on se rend compte de quelque chose qui est toujours surprenant. Malgré la persécution, l'Esprit de Dieu continue à agir d'une manière puissante. Il y a toujours autant de conversions. Donc l'œuvre de Dieu n'est jamais arrêtée. Mais ça n'enlève pas l'opposition très forte. Et vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, on arrive à une oppression de plus en plus forte par rapport à la foi chrétienne. Mes amis, nous sommes dans des jours mauvais. Le péché règne avec puissance. L'attachement à Dieu, aujourd'hui, les chrétiens, par rapport à l'attachement à Dieu, cet attachement-là se relâche. L'opposition du monde se renforce, ce qui rend plus difficile les occasions et la possibilité de faire du bien, de faire ce que Dieu veut, de faire ce qui plaît à Dieu. Il est de plus en plus difficile il sera plutôt de plus en plus difficile de rendre un culte à Dieu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera en difficulté pour nous rassembler aujourd'hui, comme on fait aujourd'hui. Mais plus on regarde et plus on se dit, waouh, c'est peut-être dans pas longtemps. Ce sera de plus en plus difficile de témoigner de sa foi. De plus en plus difficile de servir Dieu. Alors, n'attendons pas que les choses soient pires pour nous mettre au travail. C'est ça que ça veut dire racheter le temps. Les jours sont mauvais. Donc prenons le temps de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour la vivre pleinement maintenant, pas demain. Et vous remarquerez, si vous vous regardez bien, en tout cas quand je me regarde et que j'écoute un peu mes frères et sœurs, je me dis on est un peu pareil là-dessus. On aime bien remettre à plus tard. On verra ça après. Ah, j'aimerais tellement, il faut que je témoigne de ma foi, tout ça. C'est tellement, on verra ça après. Ah, mais il faut que je... Le temps est court, mais en même temps, ouais, pour l'instant, on va aller au McDo. Hein. Rien de grave d'aller au McDo. Hein. Mais c'est notre tendance à vouloir remettre à plus tard. Et je l'avais déjà dit ici, l'obéissance que Dieu attend de nous est immédiate. Et des parents savent très bien, en tout cas depuis que nous sommes parents avec Fanny et nous, par rapport à Noé, que l'obéissance immédiate d'un enfant, il faut l'attendre longtemps. Mais on sait très bien que l'obéissance immédiate d'un enfant, en fait, quand il n'obéit pas immédiatement, en fait, derrière ça veut dire désobéissance. Et nous, en fait, et moi je regarde mon propre cœur, hein. Je remets à plus tard et je me rends compte que Manu, en fait, c'est de la désobéissance, ça. Ah. Ne remettons pas à plus tard. Les jours sont mauvais, donc prenons le temps de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ne remettons pas à plus tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et quand la Bible dit ça, si vous comprenez le salut quand vous vous êtes converti il y a des années, ben pour vous, c'était le jour il y a des années. Mais le salut, c'est tous les jours, les amis. Pourquoi l'apôtre Paul dit « travailler à votre salut » ? Ça ne parle pas d'un jour, c'est tous les jours le jour du salut, c'est tous les jours qu'il nous faut vivre ce salut, c'est tous les jours qu'il nous faut vivre en chrétien dans ce monde. Mais avant de voir les trois points dont je parlais tout à l'heure de la volonté de Dieu, écoutez deux indispensables. Ayez deux indispensables dans votre vie. La meilleure façon de racheter le temps est dit dans le texte juste un peu après. Ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Pour parler de nous laisser aller hein, à la débauche, c'est pas juste pour fixer le vin, hein, mais c'est une vie déréglée qui ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et remplis de l'esprit, ça veut dire une vie raisonnable. Parce qu'il y a des gens remplis de l'esprit, donc ça va déborder et puis d'un coup, ça va partir dans tous les sens. Mais si vous relisez tout le texte, c'est très raisonné. Hein. C'est très raisonnable. Racheter le temps, c'est... On a besoin du Saint-Esprit pour racheter le temps. Comprendre la volonté de Dieu, etc. On a besoin du Saint-Esprit. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas faire pleinement ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous demande de vivre. La vie chrétienne, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Écoutez, je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, mais la vie chrétienne est un miracle de chaque jour. Ce n'est pas une vie chrétienne qu'on bricole. Bon, je vais faire ce que je peux hein, aujourd'hui parce que bon, voilà, Dieu me demande de faire ceci ou cela. Non, je vais prier parce que j'ai besoin du miracle de l'Esprit aujourd'hui. Et mes prières seront incessantes parce que j'ai besoin que Dieu me remplisse de son Esprit. Et quand vous regardez le texte, ça dit « soyez constamment remplis par l'Esprit ». Ça veut pas dire qu'on est, ça veut dire qu'on n'est pas rempli une fois pour toutes. On doit tout le temps prier et demander le secours du Saint-Esprit. La vie chrétienne est un miracle. Nous ne pouvons pas aimer Dieu, ni nous aimer nous-mêmes de la bonne manière, bien sûr, ni aimer les autres parfaitement comme Dieu le veut. Nous sommes tellement égoïstes, tellement orgueilleux, que nous avons vraiment, vraiment besoin du secours de Dieu, tous les jours, chaque seconde, pour que nous puissions vivre comme il nous demande. Demandons à Dieu son aide, son secours, pour expérimenter sans cesse sa puissance en nous. Tout commence par rechercher la puissance du Saint-Esprit et sa direction. Et sa direction. Puissance du Saint-Esprit et sa direction. Ensuite, le deuxième indispensable, nous devons apprendre à planifier avec l'aide de Dieu. Prendre un temps
du temps pour Dieu, du temps pour soi et pour les autres, si je disais cela et allons-y dans notre semaine, c'est pas spontané, hein. Il y a pas mal de gens, si on devait laver la main. Est-ce que vous prenez beaucoup de temps pour vous? Pas forcément, hein. Est-ce que vous prenez beaucoup de temps pour aimer les autres? Pas si simple. Pas si simple.
Pas tous à la fois.
Et pour aimer Dieu, prendre le temps. Je ne parle pas de cette course rapide où j'ai vite lu un texte rapide le matin et puis j'ai prié, blablabla, bon Seigneur, blablabla, je suis dans le métro et puis on se voit ce soir. Seigneur, à ce soir. Hein. Ou pour d'autres, et ça c'est plus triste, Seigneur, à dimanche prochain. Mais là, ce n'est pas de véritable chrétien. Est-ce que le véritable disciple de Christ vit une relation intime avec Dieu tous les jours, chaque instant? Bien souvent, nous devons planifier les choses. On ne peut pas vivre sans planifier. Nous devons être intentionnels, de réfléchir, prendre un temps de réflexion, planifier. J'ai beau vouloir que l'intimité avec Dieu soit toujours spontanée, je me rends compte sur le terrain, dans la vie concrète, que ce n'est pas si simple que ça. Il me faut des rendez-vous avec Dieu. Est-ce que vous avez votre rendez-vous avec Dieu? Nous avons besoin d'avoir ce rendez-vous, ce tête-à-tête. Donc, je le répète, pour prendre du temps, faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et de sa direction, de planifier avec son aide. Donc ça, c'est les deux indispensables, le Saint-Esprit et la planification. D'accord? Saint-Esprit, planification. Ensuite, nous arrivons sur ces trois points. Donc, nous commençons. Premier point, prendre du temps pour Dieu. Dans le texte que nous avons, lui, il est dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Et après, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et la meilleure façon de comprendre ce que Dieu attend de nous, c'est de lire sa parole et de la méditer, jour et nuit. Et la suite dit, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit, et ensuite, tout le reste est très fort. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par les chants, les psaumes, les hymnes, les cantiques, les spirituels, chantant et célébrant de tous vos cœurs les louanges du Seigneur. Et puis après, ça parle à la fin de remercier Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cela à tout moment. Et donc là, Dieu veut que nous soyons sans cesse, non seulement remplis du Saint-Esprit, mais que nous passions notre journée dans la louange. Ah ouais, c'est pas que le dimanche matin. Non, c'est pas que le dimanche matin. Toute la semaine, Dieu attend de nous que nous passions ce temps dans la louange. En fait, être rempli du Saint-Esprit, si vous voulez le savoir, eh ben c'est très simple. Est-ce que vous louez Dieu tout le temps? Est-ce que vous louez Dieu tout le temps? Ça, c'est un des premiers signes très forts ici dans le texte qui montre qu'on est rempli de l'Esprit. Et là, on peut être facilement repris aussi par ce texte. Nous ne répéterons jamais assez que passer du temps avec Dieu est indispensable. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Dieu si nous n'avons pas de relation avec Dieu. Et vous vous rappelez ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils aillent à l'église tous les dimanches. La vie éternelle, c'est prier tout le temps. Faire des demandes. C'est donner son offrande. C'est faire du bien. Non, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et la Bible, dans Genèse, dit « Adam connut Ève ». Et quand on a cela, après on voit qu'ils ont enfanté. Et donc on s'en rend compte que la connaissance ici, dans le texte, est une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'ici, c'est très clair, c'est très précis. Donc la Bible, en fait, quand elle parle de connaissance, ne parle pas d'une petite connaissance comme nous l'entendons, la connaissance cérébrale, hein, enfin, juste au niveau du cerveau. Je connais. Non, il parle de connaissance intime de Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu intimement. Vous avez cette définition-là, j'espère. Hein? La vie éternelle, bien sûr, c'est en Christ, par Christ. Mais la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Donc on ne parle pas de religion, mais on parle de relation avec Dieu. Voilà la meilleure façon d'utiliser son temps. Aimer Dieu, passer du temps dans sa présence, méditer la Bible, qui est la parole de Dieu, écouter Dieu, le louer, le prier, etc. Nous devons tout faire pour que ce tête-à-tête avec Dieu soit notre priorité. Protégeons ces moments précieux avec Dieu. Et notre journée doit découler de cette intimité avec Dieu. Dieu veut que nous comprenions ceci ce matin. Nos journées doivent découler de son intimité avec lui. Pas simplement ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette phrase dans mon texte. Non, nos journées doivent découler de l'intimité avec Dieu. Et ça, c'est important. Il y a tellement de choses qui font concurrence avec Dieu dans nos journées bien remplies, n'est-ce pas ? Et si elles ne sont pas forcément chargées, c'est plutôt nous qui chargeons ou qui sommes chargés dans nos têtes. Hein. Nous devons tout faire pour fermer nos fenêtres et dire maintenant, c'est le temps pour Dieu. Fermer son ordi, fermer son portable, éteindre tout et dire maintenant, ça, c'est un temps pour toi, Seigneur. Je passe ce temps avec toi. Et comment faire ? Parce que quand on dit, ça peut tout vouloir dire et c'est difficile à le comprendre des fois et on se dit, mais comment je fais moi pour vivre la relation avec Dieu tout au long aussi de la journée, à part ce rendez-vous ? Ben c'est tout simplement rester dans la louange alors que nous marchons pour aller acheter du pain. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour la vie que tu m'accordes, etc. Et puis prier avant de travailler. Seigneur, je te prie pour ce travail, aide-moi à travailler de la bonne manière et que ma manière de vivre cette journée te plaise. Nous rappeler un verset biblique aussi pendant que nous mangeons un bon poulet. Prier pour les gens, pour le monde. Et quand nous sommes dans le métro, dans le RER, le bus, la voiture, prendre un temps dans la prière. Prier pour les situations difficiles que nous voyons sur notre ordinateur, téléphone portable ou sur un journal. Ne soyons pas ces chrétiens qui regardons la télé ou écoutons les informations et puis on voit toutes sortes d'atrocités et puis on éteint et il n'y a aucune prière. Aucune prière. Ça, c'est ça. Arriver à cela montre à quel point nos cœurs sont endurcis. Il y a un endurcissement terrible là. Quand vous entendez les infos, que vous entendez des atrocités, la première réaction devrait être prier. Seigneur, secours telle personne. J'entends le camion de pompiers, Seigneur. Je te prie pour eux parce qu'ils ont tant besoin de ton secours là, parce que certainement il y a une situation difficile. Soyons de ceux qui donnent, qui prions sans cesse. Il y a tellement d'occasions pour vivre cette relation avec Dieu. La manière la plus simple possible, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Deuxièmement, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec ça. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer combien il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Manger équilibré, dormir suffisamment la nuit, n'est-ce pas Manu ? Faire du sport. N'est-ce pas Manu ? Nous devons aussi avoir du temps pour soi où nous faisons des choses que nous aimons. Il y a des personnes qui aiment le sport, elles protègent cela. D'autres aiment danser, écouter de la musique, lire des livres. Tout ce qui peut nous détendre ne sont pas des choses à remettre à plus tard. C'est des choses importantes. On a l'impression que c'est quelque chose... Je parle surtout aux mamans qui sont très sacrifices pour leurs enfants, pour leur famille, hein. Prenez du temps pour vous. Combien de personnes j'ai vues qui ont craqué, qui sont épuisées. Et quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en colère, etc. Et on se dit, mais ça doit être... Est-ce que c'est un problème de péché ? Non, c'est pas un problème de péché. C'est pas un problème de péché. C'est juste un problème de prendre du temps pour toi. Prenons du temps pour nous-mêmes. Mais attention. Pour ceux qui sont mariés et ont des enfants, prendre du temps pour soi ne veut pas dire négliger notre vie de famille. Hein ? Et souvent, ça c'est l'attitude des maris qui rentrent à la maison et peut-être se posent sur le bon petit canapé et puis se mettent devant la télé ou restent sur l'ordinateur pendant que la maman a besoin ou votre femme a besoin de vous. Hein ? Donc faisons attention, prendre soin de soi. Ça demande, en tout cas, là je parle au couple et aux familles, ça demande d'en parler ensemble. Quand est-ce que je peux avoir ce temps pour moi ? Quand est-ce que tu peux avoir ce temps pour toi ? Par exemple, avec Fanny, on prend le temps d'en discuter chaque dimanche soir, on prend le temps de voir Comment on peut planifier, comment on planifie la semaine? C'est important. Trouvez la chose qui vous convient, mais il faut que vous ayez du temps pour vous. Et le mieux est de planifier, comme je l'ai déjà dit avant. Hein? Voilà quelques idées rapides. Mais le texte que nous avons lu parle d'une chose, la sainteté. Prendre soin de soi, c'est se garder soi-même pour voir où nous en sommes dans notre conduite. Cela ne peut se faire que dans ce tête-à-tête avec Dieu, dans la lecture de la Bible, et en regardant notre cœur, en osant regarder notre cœur. Et moi, quand j'ose regarder mon cœur, je me rends compte, Dieu me dit, Manu, tu sais que là, je trouve que tu es vraiment égoïste. Et puis là, je trouve que tu es vraiment orgueilleux. Ah, moi, je pensais que j'étais mieux que ça. Osons regarder nos cœurs. Parce que souvent, on peut être... On met plein de choses sur nos cœurs, hein, et puis on vit la relation avec Dieu un peu façade, quoi. Osons regarder nos cœurs et dire, ah non, là, j'ai vraiment besoin de ton secours. Là, j'ai besoin de ton pardon, etc. Cela ne peut se faire que dans ce tête avec Dieu. Sachons donc prendre soin de nous-mêmes par une bonne hygiène de vie, en ayant des activités que nous aimons pour nous-mêmes et en veillant aussi sur notre propre sainteté. Troisième point, aimer les autres. L'amour pour les autres, vous imaginez, c'est énorme. Vivre en aimant les autres, c'est tellement épanouissant. Il y a un bonheur, mais tellement immense à se donner pour les autres. J'ai constaté il y a quelque temps que mes motivations internes ont encore besoin d'être purifiées. Et là, j'ai constaté ça de manière beaucoup plus profonde que d'habitude. Souvent, je peux être frustré de ne pas avoir fait ceci ou cela dans mon planning. Ce qui peut se comprendre quand on a des objectifs qu'on veut atteindre. Mais mes objectifs prenaient une telle ampleur que j'en oubliais la priorité des relations. La joie des relations. Mes amis, les relations sont beaucoup plus importantes que la réussite de votre planning, des objectifs que vous vous êtes donnés. Les relations sont beaucoup plus importantes et épanouissantes en fait. Mais cela demande, pour que ce soit épanouissant, cela demande d'aimer. Parce que si c'est simplement, il faut que j'aime, et vous vous mettez comme un commandement à aimer, mais sans vraiment avoir l'amour dans le cœur, ça ne va pas forcément tout le temps être épanouissant. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en fait en priorité autre chose. Si l'amour est une priorité, et si vous cherchez le secours de l'esprit pour vraiment aimer, là, vous allez vivre un épanouissement très fort. Aujourd'hui, les relations, vous le savez tous, peuvent être tellement superficielles à cause du monde numérique dans lequel nous sommes. Avoir des relations profondes et vraies, même en église, ça devient vraiment un défi important. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit, et la Bible dit que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour. Et donc, normalement, nous avons tout ce qu'il faut pour grandir en amour. Et donc, recherchons cet amour. Ayons comme objectif de nous aimer davantage. Je parlais avec Fanny la dernière fois et je lui disais, mais imagine un peu, mais on a cet objectif-là. C'est pas qu'on l'a pas, mais on a tendance à avoir d'autres choses, avoir un planning chargé, etc. Et cet objectif part. Mais t'imagines, chaque jour on est là à surprendre notre frère, notre sœur. Attends, comment on peut lui offrir un cadeau? Comment on peut le surprendre en l'encourageant? Comment je peux lui faire plaisir? Comment je peux? Et puis à chaque fois on en rigole avec Fanny, t'as vu, on a fait plaisir à notre frère, on a fait plaisir à notre sœur, quelle joie! Imaginez, c'est l'objectif de l'église d'Ozoir. On est là à chercher à se faire plaisir les uns les autres. Il y avait des obsèques ici. Je suis à la porte là-bas, j'arrive avec un plateau et les gens, je ne les connais pas. Ils sont chrétiens eux-mêmes. Ils me voient arriver, un frère que je ne connais pas du tout. Il ne sait pas du tout qui je suis. Moi, je ne sais pas trop qui il est, mais je sais très bien que c'est des familles qui doivent venir pour des obsèques pendant la matinée, donc hier matin. Et moi, pendant que j'arrive devant la porte avec mon plateau, cette personne me regarde, elle me dit, mais je vais vous aider. Elle prend le plateau, j'ouvre la porte, je me sens comme un roi. Et je me dis, toi, dans ma tête, je me dis, lui là, il a été un exemple clair de ce que je dois être tout le temps. Aimer les gens, les servir. Et ça, ça ne doit pas être quelque chose que nous voyons juste, que nous devons attendre d'avoir un bon bouquin de personnes exceptionnelles. Nous devons vivre ces choses dans l'église. Tout à l'heure, il faudra mettre les tables. Combien de personnes vont mettre les tables? Tout à l'heure, il y aura un besoin de faire la vaisselle. Combien de personnes vont faire la vaisselle? Toujours les mêmes personnes. Mais où est notre amour les uns pour les autres? Où est cette joie et cette recherche constante de comment je peux le surprendre? Tellement je l'aime. Tellement je l'aime. Comment je peux aimer? Ayons cet objectif de vie. L'amour doit se vivre en couple, en famille, avec nos amis, en église, avec nos voisins, nos collègues de travail. Et cet amour est tellement saisissant quand on oublie de « il faut que je partage ma foi à mon voisin, aux non-chrétiens ». On en oublie ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne devient pas « mon objectif, c'est ça ». Mais ça devient « j'aime tellement que je ne peux pas ne pas parler de Dieu ». Je l'aime tellement que je ne peux pas ne pas lui parler de Christ mort et ressuscité pour qu'il vienne à Christ. Dieu m'a montré ça il y a 2 semaines. Manu, tu veux partager ta foi aux autres et en même temps tu vois des freins dans ton cœur. Manu, regarde, tu as un problème ici. Tu n'aimes pas assez les gens. C'était très dur pour moi d'entendre cela de Dieu. Mais combien nous avons besoin d'apprendre à aimer les autres? Besoin du secours de Dieu là. Regardons notre propre cœur. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Est-ce que nous nous aimons vraiment nous-mêmes au point de prendre du temps pour soi? Est-ce que nous aimons vraiment les autres? Jusqu'à surprendre quelqu'un pour lui offrir un cadeau, un bon gâteau. Merci d'avance à la personne qui m'a dit qu'elle m'a fait un bon poulet pour midi. Voilà, ces gestes-là, c'est tout bête, on en rigole. Mais là, c'est la manifestation de l'évangile dans votre vie, mes amis. C'est la manifestation de l'évangile dans la vie de l'Église. Je vais finir avec ce point, j'aimerais tellement que nous soyons animés de cela. Rien ne rendra possible ce que j'ai dit sans la puissance de l'Esprit et sans avoir mis l'évangile au centre. Et un jour, j'ai vu un film qui m'a aidé et m'a marqué et m'a aidé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être marqué par l'évangile. Vous vous rappelez cette histoire que j'ai souvent racontée de ce jeune homme qui était entouré de lave, le volcan qui est en éruption est totale et lui qui allait mourir dans cette lave. Et il y a une personne qui est plus âgée que lui et qui voit que ce jeune a plus d'années de vie devant lui. Donc il se dit, non, il faut que je saute dans la lave, sachant que la lave ne le prendra pas trop vite pour que ce jeune puisse sauter sur lui et aller en terre ferme. Et moi, je vois cet homme qui se jette dans la lave et je vois ce jeune homme qui saute et qui marche sur cette personne pour aller en terre ferme. Et cette image m'a secoué et c'est comme si le Seigneur me montrait, à ton avis, cette personne-là, quand elle était en terre ferme, tu penses qu'elle n'a jamais, elle est restée, elle a oublié ce qui s'est passé? Toute sa vie était marquée par ce qui s'était passé là. C'est exactement ce que la vie chrétienne doit être. Toute votre vie doit être marquée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et tout doit en découler. Tout doit en découler. Et cela, pour le faire chaque jour, passons du temps dans la louange. Réjouissons-nous en Christ. Je conclue. En résumé, pour bien gérer notre temps, nous devons faire la volonté de Dieu. Et 3 choses, à l'aide du Saint-Esprit et d'une bonne planification, prendre du temps pour. Vous n'avez pas écouté le message? Prendre du temps pour. Pour. Vous êtes trop bon. Et pour vivre tout cela, nous avons besoin, oui, de la puissance du Saint-Esprit, sa direction et de savoir planifier, 2 indispensables. Et enfin, ce qui doit nous animer et nous pousser à l'action, c'est l'Évangile, Christ mort et ressuscité. Dieu notre Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour gérer notre temps. Que nous sachions être à ton écoute pour discerner ce que tu attends de nous. Agis en nous pour que nous ne gaspillions pas notre temps et aide-nous à prendre du temps pour t'aimer, pour nous-mêmes, pour aimer notre prochain. Que par-dessus tout, la mort de Jésus-Christ et tout ce que cela signifie continue à bouleverser notre vie, notre quotidien à tous. Dieu notre Père, nous encore un immense merci pour Jésus-Christ mort et ressuscité, pour le pardon de nos péchés, la relation rétablie avec toi pour toujours. Et merci pour ce que tu vas faire à partir de maintenant. Amen. Je vous invite à vous lever.